travail au café oriental. J'ai réfuté totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Koumassi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, c'est-à-dire de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le gouvernement a rencontré la semaine dernière une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, sur la question relative à l'importation du ciment gris. La démarche menée par la FEC a trouvé auprès des autorités un écho favorable. Dans un premier temps, les autorités de Kinshasa ont partiellement levé l'interdiction d'importation des ciment gris qui ne concerne désormais que la partie ouest du pays. Ensuite, d'un commun accord, la FEC et le gouvernement ont fixé à 12,5 $ le prix d'un sac de 50 kilos. Cette affaire relance donc les débats sur la problématique du développement de l'industrie locale dans la production de cette matière importante pour la construction et autres travaux. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocafi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Paul Badianiam est à la mise en onde, Pierre Lamégi à la réalisation et au standard de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebujangui. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocafi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Cédric Lunganga, depuis Kinshasa, vous nous avez écrit, nos autorités ne savent pas qu'avant de prendre une quelconque mesure, il y a certains préalables qu'il faudrait remplir. Notre pays, jusqu'à présent, son économie était extravertie. Nous ne sommes pas capables de nous autosuffire. Les gouvernements devraient commencer par construire des cimenteries à travers le pays pour qu'enfin prendre certaines mesures. Bien-aimé Pika Ndoutou, bonjour chers auditeurs. La problématique du ciment gris aujourd'hui dans notre pays est fonction de l'outil de production. Vu l'obsolescence des machines des silos, on aura un ciment qui coûtera cher, tandis que dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, les prix et à l'usine est à 3 $. Le gouvernement doit favoriser dans ce secteur la concurrence et inciter les importateurs à faire leur business dans les normes. Henri Kalonda, depuis Kolwezi, gouverneur fait prévoir quand le ministre a pris cette décision. Est-ce qu'elle peut nous dire combien d'industries qui fabriquent le ciment gris que nous avons en RDC? Est-ce que ces industries-là sont capables de fournir les ciments partout et répondant ainsi aux besoins réels des consommateurs? Alain Panguimo de Lucirou, dans la province de Haut-Uele. Nos autorités congolaises doivent savoir que les décisions se prennent à Kinshasa, mais parfois ce sont les provinces qui en pâtissent. Aujourd'hui, par exemple, un sac de ciment qui se vendait à 23 000 francs congolais se vend à ce jour à 35 000 francs congolais à Isiro. Quel calvaire pour la population vulnérable. Francis Mangola, Boloko de Pulisala, à Mungala. Si c'était seulement pour l'intérêt de la population, le ministre de l'économie ne pouvait pas prendre cette décision. Selon moi, avant de prendre cette mesure, les ministres devraient s'enquérir de la situation que vit la population. De toutes les façons, le gouvernement doit augmenter le nombre d'usines de production. Alexis Loukékoua, franchement, je suis désolé de cette mesure car de tout ce que je sais, le Congo est unique. Si M. le ministre national d'économie savait que sa décision serait négative dans la partie orientale du pays, il devait alors laisser libre chaque gouverneur de province de prendre cette même décision. Il faut encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Jean Bamanissa. Bonjour, M. Jean Bamanissa.
Bonjour Monsieur J.R. et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, nous disons que vous êtes gouverneur honoraire, député honoraire et opérateur économique. À ce titre, donc, vous êtes promoteur d'une usine et en même temps patron du Congo Partenariat Développement Conseil. Voilà, donc nous vous recevons à ce titre-là pour réfléchir un peu par rapport à cette problématique. Mais d'entrée de jeu, nous référons donc à votre motion de 2008. En 2008, vous avez initié une motion, mettant en exergue les difficultés que rencontrent depuis quelque temps les industries nationales de production du ciment et par ricochet les consommateurs de ce produit. Alors, au regard de l'évolution de l'économie nationale, est-ce qu'on peut dire à ces jours, avant la prise de cette décision, il y a eu des avancées ou non?
Merci, Monsieur JR. Donc, en 2008, effectivement, au lendemain du programme qui avait été initié par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État sur les 5 chantiers, on a constaté qu'il manquait justement le produit de base qui était le ciment. Et vous vous rappellerez que nous avons acheté du ciment dans la ville de Kinshasa à 40 dollars. Des pics spéculatifs, et j'avais eu donc l'occasion d'initier cette motion qui avait abouti à la mise en place d'un cadre de travail, une cellule de réflexion qui était présidée par le professeur Katanga ainsi que d'autres éminents députés nationaux, et nous avions travaillé, nous avions remis un rapport, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Et nous avions fait, justement, pour revenir dans une conclusion, parce que c'était un document qui était assez long et qui est un document d'ailleurs public, nous avions constaté que la consommation de ciment était très faible par capita, donc par homme. Vous savez, il y a des pays qui consomment à peu près 1500 kilos par personne. Faites le calcul avec 70 millions d'habitants en RDC, nous sommes en bien moins de 50 kilos. Et pour dire que pour nous lancer dans les infrastructures, dans l'habitat et dans tous ces travaux, nous avons véritablement besoin d'augmenter nos capacités de production. Et nous avions aussi à cette époque autorisé et demandé au gouvernement de libéraliser l'importation parce qu'elle était interdite, et de rabattre toutes les taxes et les contraintes au niveau de différentes rédévances, au niveau de la logistique, au latra, etc., pour que le produit puisse quand même être sur le marché. Et nous avions aussi cassé la chaîne spéculative, parce que le ciment continuait à se produire à Silou, qui, c'est vrai, avait un petit problème technique, à peu près à 8 dollars, mais il était à 40 dollars spéculatif. Donc, c'est une solution avait été trouvée en cassant cette spéculation d'abord et en permettant les importations qui ont continué jusqu'à ce jour, mais le besoin ne fait qu'augmenter.
Alors, parmi les conclusions que vous avez sorties donc de ces rapports, il était bien dit, pour assurer l'approvisionnement régulier du pays en ciment, les actions qui étaient entre autres envisagées à moyen terme, c'était des mesures gouvernementales pour soutenir en fait la Silou, afin de lui permettre d'accélérer la réhabilitation des usines à l'arrêt depuis 2008. Alors aujourd'hui, qu'en est-il lorsque nous entendons par exemple Silou au mois de mai dernier menacer ou annoncer déjà l'arrêt de ses activités, est-ce qu'on peut dire que déjà là il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas eu intervention du gouvernement?
Ce rapport aussi permettait justement au gouvernement non pas de construire, comme je l'ai entendu par certains auditeurs ici, mais de faciliter la construction des usines. Donc c'était vraiment des renseignements que nous avions, parce que je dois vous dire que je travaille sur la matière du ciment depuis 2001. 2004, j'ai approfondi encore toutes les études à travers mon bureau d'études sur cette question. Et ici, on montrait ces opportunités. Silou devrait être accompagnée, elle a été. Elle avait déjà promis à l'époque de passer de 425 000 tonnes annuelles à 1 300 000. Elle a connu quelques difficultés entre-temps. Et la CINAT aussi devait être relancée. C'est pour cela qu'il y avait eu, même au niveau du gouvernement, un appel d'offres pour vendre une partie des actions du gouvernement envers des privés. Mais tout cela n'a pas trouvé des solutions parce qu'on n'a pas eu tout de suite un engouement. Mais effectivement, dans la partie ouest, des études ont continué à être faites aujourd'hui. Il n'y a pas encore trop de bruit, mais vous verrez bientôt que des productions vont se mettre sur le marché. Mais pour revenir à cette injonction qui avait été faite par le Parlement, il était question de faire un suivi, parce que on est retombé encore dans ce déficit, justement parce qu'il n'y a peut-être pas eu un suivi correct de la demande par rapport à l'offre.
Voilà. Alors, vous avez suivi comme nous que le gouvernement avait d'abord, premièrement, pris la décision de vouloir interdire l'importation des ciments, en tout cas pendant 3 mois. Aujourd'hui, le même gouvernement, par l'entremise, par le biais du ministre de l'Économie, ayant sur sa décision, en enlevant partiellement, comme je l'ai dit tantôt, la décision d'importation des ciments gris, qui ne concerne désormais que la partie ouest du pays. Vous l'avez évoqué, la partie ouest. Comment jugez-vous cette décision?
Oui, j'ai eu à vous suivre sur la question déjà une fois, ce problème de commerce transfrontalier, non seulement sur la partie de l'Angola, mais peut-être demain sur la partie Congo-Brazzaville et la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, etc. Nous devons avoir une politique de commerce dans la sous-région avec le COMESA, le SADC, et puis aussi envers les autres producteurs afin de faciliter justement que la consommation puisse être faite. Le ciment a un principe, c'est qu'il ne doit pas normalement être transporté à plus de 500 km, sinon il devient économiquement trop cher. Donc le ciment qui est produit ici, normalement, devrait suffire dans la zone du Congo central, Bandundu, un peu l'équateur. Bon, le fleuve étant là, on va arriver à Kisangani ou plus loin encore dans l'équateur, mais il nous faudrait d'autres cimenteries. C'est ce que la commission avait fait, c'est ce que nous avions mis sur la table à la connaissance de tout le monde. Aujourd'hui, on a eu un effet ici dans la partie ouest qui a été un commerce transfrontalier, mais qui n'a pas été encadré et dont les méfaits aujourd'hui sont fortement ressentis. Qu'est-ce qui s'est passé en résumé? Vous savez que la crise des produits de matières premières tels que le pétrole a fortement affecté l'économie angolaise. Et le taux de change aujourd'hui officiel est à peu près à 168, tandis que le marché parallèle est à peu près à 650, même à 700 kwanza pour un dollar. Ce qui fait aussi qu'ils ont une législation qui détermine que le commerce et les activités se font uniquement en monnaie locale, en kwanza. Aujourd'hui, quand vous allez dans une cimenterie, le prix est de 1350 kwanza par sac. Au taux officiel, divisé par 166, vous êtes à peu près à 8 dollars. Ça, c'est le prix normal à l'usine en Angola. Mais il y a eu, justement, certaines pratiques. C'est de prendre des dollars en cash, de traverser la frontière avec, pour acheter des kwanza à 650, et d'aller acheter le ciment à 1350. Donc ceux qui ont fait ce commerce, non seulement ils ont transgressé la loi sur le change en République démocratique du Congo, parce qu'on ne peut pas normalement traverser avec plus de 10 000 dollars, et il y a des sanctions normalement qui peuvent être prises, en tout cas par le gouvernement, ils ont acheté des produits 5 fois moins chers sur sa valeur du marché en dollars. Et ils sont venus le revendre ici, c'est comme ça qu'on a du produit à la frontière à 5 dollars, à 6 dollars, 7 dollars, mais le prix officiel est de 8 dollars dans les usines. Donc ne vous inquiétez pas.
La décision du gouvernement, c'est justifié.
Écoutez, dans la partie ouest, ici, nous avons facilement plus de 20 millions de dollars qui sont sortis tous les mois en cash. Ce qui vraiment est déstabilise. Si nous avons aujourd'hui même le taux de change en RDC qui a fortement bougé, qui était stable pendant longtemps, c'est aussi dû
à
cela. On a, si vous savez, dans toutes nos frontières, nous avons plus de 100 millions de dollars en cash qui échappe au système bancaire et qui vont alimenter les marchés.
On va revenir à vous, Jean Bamalissa, gouverneur honoraire, député honoraire également, et puis opérateur économique. Le temps d'ouvrir les standards et écouter, accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints dans ce débat. Nous parlons du gouvernement qui a rencontré la semaine dernière une délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC sur la question relative à l'importation du ciment gris. Alors la démarche menée par la FEC a trouvé auprès des autorités adéquates favorables, je l'ai dit, dans un premier temps, les autorités de Kinshasa ont partiellement levé l'interdiction d'importation des ciments gris qui ne concerne désormais que la partie ouest du pays. 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Albert, vous nous avez rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes à Kinshasa. Quel est votre avis?
Oui, moi, je suis revendeur au détail des ciments depuis 5 ans. Aujourd'hui, nous approvisionnons à $13 le sac, plus le frais de transport et distribution, ce qui fait en francs congolais 14 400 francs. Et nous les revendons à 15 000 pour gagner 600 francs. Aujourd'hui, le sac congolais fixe le prix d'un sac à $12.50. On ne comprend pas comment cette décision est prise. Et cela pourra nuire, si pas notre boulot. Et la brigade économique qui est mise sur le terrain pourra maintenant traquer les petits dépositaires pour, ne pas bien évoluer dans leur secteur.
Oui, donc si je comprends bien, il y a cette difficulté entre le prix fixé par le gouvernement et tous les autres frais qui entrent en ligne des comptes, hein, le coût de vous avez parlé de l'approvisionnement et puis le coût des transports et ajouter à cela autres frais, et cela fait en somme 14 000 et qui vous amène jusqu'à 15 000 francs congolais, qui va déjà au-delà de $13, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors qu'est-ce que vous souhaiteriez? Vous souhaiteriez que le gouvernement revienne sur sa décision?
Oui, et que le gouvernement revoie un peu cette situation, puisque la Silou travaille avec un système de distributeurs. Les distributeurs qui nous fournissent les produits jusqu'au dépôt nous fournissent à $13, plus les frais de transport, et les dollars qu'ils le prennent à 1100 francs congolais. Si nous calculons bien, cela va faire au total 14 400. Et par sac, nous ne gagnons que 600 francs. On ne comprend pas cette décision, comment est-ce que nous allons pouvoir vendre ces produits au détail, mais c'est très difficile pour ce dernier champ.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a un réel problème au niveau de l'industrie locale en ce qui concerne la fabrication de ciments? Parce qu'on regarde, nous ensemble,
le silou et... Il avait dit qu'il y a un grand stock, c'est-à-dire il n'y aura pas la pénurie dans ces produits.
Oui, un grand stock, produit par quelle entreprise? Silou, Sinat, qu'on sache bien, il y a quelques mois, Silou a affirmé déjà que dans des jours à venir, il pourrait arrêter avec les activités.
Suite à plusieurs difficultés. Et depuis la réduction de l'importation, nous approvisionnons auprès de la Silou.
Merci beaucoup, Albert. Merci beaucoup parce que vous nous avez fait ce témoignage en tant que vendeur au détail et vous avez dit qu'il y a pas mal de difficultés que vous rencontrez aujourd'hui en ce qui concerne les frais ou d'autres frais qui entrent en ligne des comptes dans la chaîne des dépenses que vous réalisez au niveau de coûts d'achat. Alors aujourd'hui, vous êtes obligé de vendre au-delà du prix fixé par le gouvernement. Merci beaucoup, Albert, d'avoir appelé. Rudy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Voilà, quel est votre regard par rapport à cette thématique?
Je garde de suivre M. Albert depuis Kinshasa. Lui, il a parlé des prix. Alors, moi, je dirais ceci. C'est une bonne décision, la décision que le gouvernement avait prise pour protéger l'industrie locale. Mais aujourd'hui, on nous dit que ce même gouvernement-là vient de prendre une décision pour lever partiellement la décision du côté reste de notre pays. Moi, je vois que c'est bien. Ils ont même fixé le prix à 12,5 dollars le sac d'un ciment de 50 kilos. Mais si à Lubumbashi, le prix du ciment revient à 14 500. Il n'y a pas d'entrée. Donc, avant, on achetait le sac du ciment de 50 kilos à 7 500, d'autres on est fixé à 8 500, cela dépendait de chaque vendeur. Maintenant, aujourd'hui, le prix est à 14 500.
Oui, Rudy, quand vous parlez d'un sac de 50 kilos à 7 500, est-ce qu'il s'agit bien de produits locaux?
Non, c'est le ciment qui vient de la Zambie.
Le ciment qui vient de la Zambie.
C'est le ciment qui...
Oui.
c'est le ciment qui nous vient de la Zambie. Parce que ici, on avait la cimenterie du Katanga, la cimentate.
La cimentate, oui.
Qui ne fonctionne plus, mais qui est dans la province du Lualaba. Mais j'ai suivi dernièrement le gouverneur, M. Richard Meyers, il a dit qu'il va appeler des investisseurs sud-africains pour venir relancer cette cimentate. Maintenant, si on mise la chiffre aujourd'hui, les sacs à 14 500, ne voyez-vous pas que ici, à notre frontière de Kasumbalesa, la fraude sera maintenant bien gérée par les acheteurs, donc les acheteurs qui vont importer les ciments là-bas. Parce que ils voudront toujours avoir les ciments pour les vendre et gagner beaucoup d'argent. Parce que là-bas, en Zambie, le prix n'a pas haussé. Parce qu'on a fermé là-bas à la frontière, on a interdit l'importation du sac de ciment. Alors, si le gouvernement peut aussi lever cette sanction ici, à Kasumbalesa, donc à la partie est de notre pays, parce que j'ai entendu qu'il y a des fraudes du côté province de Kivu là-bas.
Oui, je crois que j'ai dit, cette décision qui a été prise par le gouvernement, on l'a levée partiellement pour la partie ouest, je crois. Au fait, aujourd'hui, si nous pouvons prendre Kinshasa, Bandundu, une partie de nord, voilà, cette partie-là est concernée par l'interdiction. Donc je crois qu'au niveau de l'Est, Sud ou le Nord-Est, je crois que cette partie du pays n'est pas concernée. Donc s'il y a des ciments qui continuent encore à entrer à provenance de la Zambie, les problèmes ne se posent pas. Mais là vous posez un problème. Aujourd'hui, les ciments qui provenaient de la Zambie, qui étaient vendus à 7 500, aujourd'hui, ces ciments revient à 14 500. Donc il s'agit là d'une spéculation. Alors comment faire pour arrêter ce genre de spéculation? Merci beaucoup, Rudy, d'avoir appelé de Lubumbashi. Alphonse, vous êtes à Roux, bonjour et bienvenue.
Bonjour, cher, bonjour aussi à notre invité qui est notre gouverneur de l'ex-province orientale. Hier, si nous étions vraiment dans un état sérieux où chacun se respectait et mettait au centre l'intérêt de la population sur laquelle il n'y aurait pas d'État ni de gouvernement, ne pourrait pas se créer des situations telles que nous sommes en train de les vivre actuellement. Et hier, barrer la route aux importations de barres de fer, du sucre et même des ciments, à cause d'une fraude massive au niveau d'une frontière, ça s'est exposé toutes ces faiblesses aussi et aussi, non seulement au niveau interne, mais aussi au niveau international hier. Alors, dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, qui a tous les atouts, qu'est-ce qui peut empêcher l'implantation des usines de la production de ciments par province, voire même plus tard par territoire, en tenant compte de l'importance du ciment dans tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons appris et nous apprenons qu'il y a ce qu'on appelle les fonds de promotion de l'industrie. Alors, je me pose la question, à quoi servent ces fonds-là exactement, alors que les taxes sont perçues chaque jour et sur toute l'étendue de notre pays. Et il y a des hommes d'affaires à même d'installer des industries dans le pays, mais il faut dire vrai, la surtaxation encore, le climat des affaires, mais le décourage est toujours ailleurs.
Alphonse, vous allez poursuivre parce que nous avons, vous l'avez dit, l'ancien gouverneur de la province de la province orientale, donc qui est actuellement démembrée. Voilà, nous aimerions un peu avoir quelques précisions sur la cimenterie qui devait fonctionner au niveau de la province orientale, qui a fait couler beaucoup d'encre et les salines. Monsieur le gouverneur honoré, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler exactement, parce que ça coûtait même le départ de l'ancien ministre de l'industrie.
Oui, écoutez, tout à fait. Je voudrais en dire très rapidement aussi pour dire qu'effectivement, nous ne devons pas subir ce qui s'est passé pendant toutes ces années avec les importations, avec les hausses, avec des mesures peut-être comme celles qui ont été prises et qui finalement ont été corrigées parce que l'Est ne devait pas être concerné, le Sud aussi, et même le Nord, parce qu'on n'a pas de production dans cette partie de la République, et dire aussi qu'effectivement, comme le disait Alphonse, il nous faut des cimenteries partout. La commission, nous l'avions soulevé, nous avions mis à disposition des éléments qui devraient permettre au gouvernement et aux opérateurs économiques de saisir ces occasions-là pour pouvoir implanter de nouvelles cimenteries. Pourquoi cela n'a pas été fait? Voilà la grande question. Et celle aussi de savoir aujourd'hui, les deux qui se sont implantés nouvellement dans la partie ouest, quelles ont été les difficultés qu'elles ont subies pour que le gouvernement puisse faciliter l'implantation des nouvelles. Et nous devons remercier en tout cas le gouvernement qui est attentif effectivement, mais nous devons éviter aussi de prendre des mesures conjoncturelles, mais plutôt de tracer une voie pour que nous puissions être producteurs et exporter.
Mais vous étiez en fonction lorsque on a lancé avec pompe, avec beaucoup de bruit, l'installation de la cimenterie de la province orientale. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois qu'aujourd'hui, en dehors de votre fonction, vous quand même me dire, j'avais rappelé la vérité.
Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas le gouvernement qui construit les cimenteries. Les gouvernements doivent faciliter, parce que le gouvernement n'a pas un ministère de l'industrie, n'a pas toutes les expertises et toutes les compétences pour faire ce type de travail qui demande quand même des études, quand même de géologues, etc. On les a, mais le rôle de l'État n'est pas celui-là de construire, mais plutôt de faciliter la construction. Et celui de la province orientale, celui qui a fait justement couler beaucoup d'encre, bon, vous avez vu que ça a voulu plutôt être un dossier plus politique que technique ou commercial et industriel. Et tous les ministres depuis 10 ans qui étaient passés là, malheureusement, en tout cas le prenaient comme tel. Mais la conclusion a été faite par l'actuel ministre de l'Industrie et le Premier ministre de dire que tout devait être repris, tout devait être recommencé parce que...
D'abord, la responsabilité.
Mais la responsabilité...
Parce que c'était le 30 juin, on a annoncé une promesse en l'air.
En 2006 ou 2007, si je ne me trompe pas, on m'avait appelé la veille, on voulait aller faire poser une pierre là où il fallait pas, etc. Bon, c'est peut-être le manque d'études. Voilà pourquoi il faut faire des études avant de se lancer dans une opération comme ça, qui n'est pas une opération politique, mais plutôt une opération économique. Et donc, ce manque justement d'études a fait que nous ayons perdu le temps.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des cimenteries au Katanga qui une cimenterie qui est aux arrêts. On a celle de la province orientale qui n'a pas marché. Silou, Sidad est capable de donner, de répondre aux besoins en ciment en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a un ciment indien qui, en fait, hante un peu l'industrie locale?
Non, je pense que nous devons plutôt avoir des structures qui doivent réfléchir au niveau économique et industriel que au niveau politique, parce qu'un cabinet politique il vient avec un programme beaucoup plus politique que technique et économique. Et voilà pourquoi je connais très bien ce dossier, hein. J'ai été sur le site, j'ai fait 11 km à pied, j'ai vu la difficulté de pouvoir le réaliser. Et c'est la même chose avec les autres potentiels. Nous avons du calcaire, mais c'est pas n'importe quel calcaire encore qui est bon. Mais nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'un certain nombre de choses que le gouvernement doit aujourd'hui commencer à cibler et à les inscrire dans un objectif à atteindre pour permettre à ce que le privé puisse construire une deuxième, troisième, quatrième, cinquième industrie dans cette grande république que nous avons et qui, écoutez, 70 millions d'habitants, prenez 100 kilos par personne, c'est pas que chaque personne doit les consommer, les infrastructures, etc. Vous savez que le ciment est consommé plus que l'eau d'ailleurs par habitant. Et donc on a un gros besoin si on doit se lancer dans les infrastructures, mais cela demande une réflexion d'ensemble. Et c'est vrai que quand vous regardez notre rapport de 2008 dont vous avez cité, effectivement il n'y a pas eu un suivi. Il nous faut un suivi beaucoup plus efficace en cette matière.
On va voir avec nos auditeurs qui nous ont rejoint également. Il y a Alphonse, tout à l'heure, vous aviez encore un mot à ajouter?
Oui.
Et rapidement, on retrouve le Félicien. Oui.
Merci beaucoup. Je dis ceci. Aujourd'hui, le secteur de l'économie, s'il faut dire vraiment, il est malade. Parce que, par exemple, on vient de fixer le prix d'un sac de ciment de 50 kg à $12.5 en billets et place de francs congolais. Et quand vous faites le tour de provinces, vous trouverez que chaque coin a son prix et personne n'est reproché pour cela. Alors, c'est pourquoi nous voulons suggérer au ministère de l'économie en particulier et au gouvernement en général aux côtés de la libération, de la libéralisation, comme a souligné notre invité, c'est ici. Premièrement, il faut utiliser les recettes des fonds de promotion de l'industrie pour des fins utiles et palpables par province. Deuxièmement, il faudrait arranger les routes de desserte agricoles dans chaque province pour faciliter le transport des produits commerciaux à moindre coût afin de promouvoir la production locale, ce serait mieux. Troisièmement, il faut bien payer les agents de l'économie pour leur permettre de respecter leurs services et de se respecter aussi. Quatrièmement, il faut travailler en collaboration avec la SEC et les autres secteurs pour arrêter des décisions qui ne vont pas frustrer les uns ni les autres. Et enfin, hier, ne pas privilégier une partie du pays, mais plutôt traiter tout le monde de la même façon. C'est ce que j'ai.
Merci beaucoup. Alors, Félicien, que vous inspire la proposition tout à l'heure, les propositions d'Alphonse Béharou? Félicien, vous êtes à Kinshasa?
Moi, je pense que non, ici, nous avons un problème. Je salue d'abord votre invité et tous les auditeurs de Radio Kapi. Et je voudrais dire que si vraiment notre gouvernement veut réussir, il doit faire comme on le fait partout ailleurs. Les meilleurs systèmes économiques sont ceux qui favorisent plutôt la consommation des ménages. C'est-à-dire qu'on paye des bons salaires à ceux qui travaillent, et on cherche à ce que aussi ceux qui travaillent soient plus nombreux que ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'en leur donnant ce salaire, ils vont chercher à consommer. Et cet argent va aller dans l'investissement des entreprises.
Oui, Félicien, au regard aujourd'hui de l'industrie locale dans la production du ciment, est-ce qu'on peut penser à un avenir?
Mais ce que je voulais dire, quand on empêche la consommation en voulant augmenter les prix, alors que les gens n'ont pas les salaires, comment est-ce qu'il y aura développement? Comment est-ce que les gens vont construire? Comment est-ce que les gens vont développer le pays quand tout est cher? Nous avons la douane la plus chère au monde. Nous avons les fiscs avec une panoplie de taxes incontrôlables et en fin de compte, tout est cher sur les marchés. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on protège.
Oui, alors Félicien, quel regard portez-vous sur en fait ces prix? Quand nous nous retrouvons par exemple en Angola, où, disons, un sac de ciment gris revient par exemple à 8 dollars, aujourd'hui, ben alors vous traversez de l'autre côté de la RDC, vous payez le même sac à 12,5. Et pourtant, nous sommes dans la région ou encore dans la sous-région. Là, ça relance encore le débat sur l'intégration régionale, l'intégration sous-régionale, le problème de commerce transfrontalier, toutes ces problématiques-là. Alors, donc, comment vous portez votre regard par rapport à ça?
D'abord, vous devez savoir que les sacs ne se vendront pas à 12,5 parce que le prix ne s'impose pas, le prix dépend de l'offre et de la demande. Quand il y aura l'arrêté des ciments ici, c'est pas le commerçant qui va obéir au gouvernement pour vendre les sacs à 12,5. Nous l'achèterons au prix, nous l'achèterons. Et nous avons déjà vécu ça dans notre pays. Moi, j'ai dit qu'on ne peut pas aujourd'hui, un gouvernement responsable, dire qu'il protège une usine, une seule usine pour toute la République, et qui ne peut même pas produire suffisamment pour alimenter rien qu'à la capitale, mais on va protéger cette usine et empêcher qu'il y ait les ciments qui entrent et qui viennent de l'extérieur et à bon prix pour qu'ils puissent aider la population, qu'ils puissent aider au développement. Moi, je pense pas qu'on a bien réfléchi. Moi, je pense que le gouvernement doit vraiment avoir les deux pieds sur terre et commencer à réfléchir l'intérêt de la population, réfléchir le développement du pays et non pas des petits intérêts égoïstes. Parce que tel opérateur économique vient le voir, il leur dit non, moi je suis là, tout ça, et on veut sacrifier tout un pays, tout un peuple pour satisfaire un opérateur économique. C'est pas normal.
Voilà, merci beaucoup, Félicien. On va prendre Ernest avant de retrouver notre invité, Ernest Abatadi et Jean-Pierre à Kinshasa. Ernest, vous êtes à Abatadi, c'est pratiquement dans le Congo central où il y a Filou, il y a Sinat. Alors, on va voir avec vous, Ernest. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Et quel est votre avis?
Bon, je crois que il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites par mes amis, mais vous savez que c'est comme si l'autre on fait de Kinshasa pour Mwanda, on ferme les yeux pour ne pas voir la qualité des maisons de nos villages ici. Et l'autre comprend, dans le Kinshasa pour Bandundu ou dans le Katanga, nous avons vu les images dans nos villages respectifs, et quelle qualité de maisons que nous avons en terre battue, en daube. Bon, je ne sais pas si ça dérange nos autorités. Lorsqu'ils voient les autorités, le peuple congolais s'acheter des ciments et construire des maisons. Parce que la quantité qui est entrée au pays a aidé de construire des grands ciels, des maisons de grandes valeurs. Le petit peuple qui s'est retrouvé dans la joie, au niveau du Congo central ici, en achetant un sac de ciment à 6500, 7500, tout au plus, je crois 7000 francs, la population se rend compte que. Il y a un sourire qui vient de remettre dans la population pour la construction, avoir une maison, mais cela a choqué certaines autorités. Et puis, sans pourtant remettre en fonction Filou et Sinat, sans pourtant attendre la production de nouvelles usines en construction ici dans notre province, on prend une décision criminelle. Et je trouve que c'est un danger pour la population. On n'a pas besoin de construire ce pays avec la population ensemble, mais on a besoin d'une catégorie. Déjà, vous rappelez-vous, si aujourd'hui on se plaint pour le ciment, mais qu'est-ce qu'on paye pour le sac de riz? Vous savez que si c'était l'intervention de la population, c'est beaucoup de choses qui sont. On a même déjà acheté aujourd'hui le sac de 25 kilos de riz à un prix exorbitant, parce qu'il y a eu des situations comme ça par rapport aux opérateurs économiques.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup parce qu'il y avait une préoccupation. Ernest, merci beaucoup parce qu'il y avait une préoccupation tout à l'heure directe d'ailleurs par rapport au prix, par rapport au disons au pouvoir d'achat. Monsieur Bamalissa, vous avez suivi Félicien qui avait soulevé d'ailleurs cette préoccupation.
Tout à fait. Je crois qu'on est tous d'accord que la production chez nous, en RDC, doit être, en tout cas au niveau des prix, acceptable pour cette population et pouvoir rencontrer cette production dans tous les espaces géographiques, au sud, à l'est, au centre, au nord et à l'ouest. Ça, c'est un objectif que nous devons atteindre. Pour l'atteindre, il y a la facilitation aux industries qui sont là, et puis il y a la facilitation au fonctionnement pendant qu'ils sont là. Parce que notre objectif ne doit pas être seulement de consommer nos produits à l'intérieur de la RDC, et laisser les autres marchés extérieurs. Nous devrions aussi avoir un objectif de pouvoir exporter nos produits. Donc, et c'est là où nous devons faire un travail et que je suis à travers mon bureau depuis plusieurs années, comment devenir concurrentiel sur le marché, en tout cas ici au niveau de l'ouest à l'est, etc. Et nous pensons que cette situation dans la partie ouest déjà, bien que oui, on a des contrats programmes, et je crois que la FEC a eu à le dire, le contrat programme doit être mieux suivi, et dans le rapport que nous avions fait au niveau de l'Assemblée nationale, il fallait laisser les opérateurs professionnels de ce domaine pouvoir le faire, parce qu'aujourd'hui on est rentré dans la spéculation, et cela est en train de fausser le jeu. Mais pour revenir à la capacité, effectivement, d'ici janvier, la partie ouest va avoir une capacité qui va être qui va rencontrer les besoins de la population. Et c'est vrai que nous aurions.
Ce sera un miracle qui va s'opérer.
Mais écoutez, aujourd'hui,
parce que vu l'activité des silos, qui ne produit que 400 000 tonnes, voilà. En rapport avec votre rapport, par an, SINAD qui est à, 400, à plus ou moins 100 000 tonnes par an, et SIMACAT qui a d'ailleurs fermé, qui était à 25 000, si mes calculs sont bons, et SIMANLAC qui est aussi à 25 000, mis ensemble, c'est autour de 50 000, mais entre temps, le besoin, c'est à plus de 1 300 000 kilomètres, tonnes.
Si on prend 100 kilos par habitant, c'est 7 millions de tonnes dont on a besoin. Donc le besoin est encore là. Facilitons l'implantation des nouvelles industries. Donc ça, je crois qu'on est tous bien d'accord là-dessus. Et permettons l'or de fonctionner correctement. Maintenant, la partie ici à l'ouest, PPC Barnett va commencer sa production au mois de janvier. L'usine est déjà terminée et ils sont en train de tester les machines. Ils attendent la connexion de la SNEL et cette entreprise va pouvoir, en tout cas, déjà produire.
PPC Barnett, c'est toujours dans le Congo central.
C'est le Congo central. Donc ça, c'est un projet, comme je vous ai dit, que j'ai initié depuis 2004 et qui aujourd'hui voit le jour. À côté de cela, il y a une autre cimenterie qui s'appelle Nyumba Akiba, qui aussi verra le jour, en tout cas la production d'1 100 000 tonnes aussi. Donc on va arriver à peu près à 2 700 000 tonnes à partir de l'année prochaine. Donc ce qui est suffisant. Maintenant, moi je suis déjà dans la phase après production. Qu'allons-nous faire de ce ciment? Et voilà pourquoi je vous dirai aussi qu'il faut commencer à faire réfléchir les architectes, les ingénieurs, les promoteurs.
Voilà, on y reviendra parce qu'il y a, selon nos informations, il y a un projet d'expo béton. Nous allons y revenir d'ailleurs. Le temps d'écouter 3 auditeurs et puis on revient à vous. Jean-Pierre, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour Monsieur Gilles, je dis bonjour à l'invité.
Quel est votre avis, Jean-Pierre?
En tout cas, bon, j'ai bien suivi les intervenants et Super Net et les Bas Congo. Je pense que notre gouvernement et plus précisément le ministre de l'économie ne doit pas continuer à vivre comme s'il vivait dans une autre planète qui est la RDC. Je pense que c'est la décision que le ministre vient de prendre. C'est vraiment une décision inopportune, vraiment, pour le moment. Avec les chiffres que l'invité vient de nous donner ici, des 2 millions, 1
oui,
million...
Oui, mais est-ce que, Jean-Pierre, vous avez suivi les motivations présentées par le gouvernement par rapport à cette décision? Est-ce que vous avez vraiment un regard ou une critique à formuler par rapport aux motivations?
Oui,
parce que quand vous dites qu'ils ne vivent pas sur cette planète, ben, ils ont eu par plusieurs fois à motiver leur décision.
Bien sûr, mais les décisions là, non. C'est comme si ils ne croient pas peut-être à la profondeur. Je pense que notre pays.
Oui, qu'est-ce que vous appelez profondeur? Qu'est-ce que vous appelez l'entrée en profondeur?
C'est-à-dire
que si c'est un sac de ciment de 50 kilos à 9 dollars, à 6 dollars.
Oui, parce que non, vendre un sac de ciment, bon, un sac de ciment qui se vend à 9 dollars et qui brusquement qu'on revient encore à 12 dollars, alors qu'il y avait une tendance peut-être d'aller même en dessous même de 9 dollars, c'était une bonne décision. Et que notre gouvernement, je pense que ça fait déjà plusieurs années, ils sont en train de signer des accords de partenariat économique. Et que nous sommes engagés dans des regroupements régionaux et consorts et qu'il y a peut-être un mécanisme pour qu'on puisse faire les
États.
D'ailleurs, oui, entre les nations et les autres États. On ne doit pas continuer à signer les accords de partenariat et faire partie des regroupements régionaux, mais tout à rester à une économie traditionnelle, à une économie fermée, et que les mécanismes qui doivent peut-être être faits pour qu'on puisse être dans la mondialisation,
Merci beaucoup Jean-Pierre, vous avez évoqué également le problème de l'intégration régionale et sous-régionale. On va voir avec Maître Olivier qui est à Guadeloupe. Bonjour Maître Guado, Maître Olivier.
Bonjour, Monsieur Gilles.
Alors, quel est votre commentaire?
En fait, Monsieur Gilles, je suis très content par rapport à la thématique du jour. Mais nous devons signaler une chose de très importante. Encourager la production locale est une politique vraiment de très capital qui va droit à l'avantage des citoyens. Mais il faut que cette décision qui pourrait sanctionner l'importation du ciment soit quand même prise par concertation en tenant compte des enjeux possibles. Aujourd'hui, nous avons assisté à une conséquence de la décision impopulaire qui depuis son
intégration. Mais Olivier, on est sans ignorer qu'il y a eu des concertations en amont. Avant les 26 mesures du gouvernement, il y a eu des rencontres entre la FEC et le gouvernement autour de cette question. Il y a eu aussi des débats politiques ou citoyens, comme vous voulez, autour de cette question. Mais voilà que le gouvernement ayant pris la décision, et il a laissé, une porte ouverte par rapport à toutes les suggestions. Raison pour laquelle aujourd'hui ils sont revenus sur leur décision pour permettre à ce que cette décision ne puisse concerner que la partie ouest de la République démocratique du Congo.
Si, mais c'est hier. Moi, personnellement, à mon humble avis, je souhaiterais mieux, premièrement, nous devons investir dans la création des usines de fabrication pêche dans chaque province, plus ou moins dans chaque province. Si le gouvernement essaie un peu d'investir à la construction des usines de fabrication plus ou moins dans chaque province, ça va permettre de
donner
quelque chose.
Merci beaucoup. Merci Olivier. On va écouter. Merci Olivier. On va écouter aussi John qui est à Kinshasa et puis je reste dans le banc de Louville. John, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Oui.
Bonjour, messieurs les journalistes et aussi à l'invité.
Oui, quel est votre commentaire?
Merci. Moi, je voudrais dire, vous savez, le problème des ciments, j'irai un peu plus loin. La production est un grand problème dans notre pays. Le secteur de production souffre encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est vrai, les ciments aujourd'hui posent, nous sentons que la demande augmente et au niveau du pays, il n'y a pas vraiment la production, il n'y en a pas tellement. Nous sommes très conscients de la situation et nous encourageons l'honorable pour tout ce qu'il a déjà fait par rapport à la production des ciments, aussi bien ce qu'il est en train de faire. Nous suivons ça de très près. Mais ce que nous demandons, le gouvernement, après avoir pris les mesures, plusieurs mesures, par exemple, nous avons vu des grands travaux, des 5 chantiers et autres, nous allons plus loin, nous nous posons la question, sur base de quelle politique de production, par exemple, dans les secteurs où nous parlons aujourd'hui du ciment, comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que nous avons travaillé à l'importation ou simplement les grands travaux qui ont été faits chez nous au pays, nous avons simplement produit ici dans le pays? C'est ce que nous nous demandons. Parce que aujourd'hui, nous nous rendons compte que on ne privilégie pas vraiment les secteurs de production. Et par conséquent, ce sont d'autres jeunes qui produisent, par exemple, ces ciments dans d'autres pays, qui se rendent compte que leur production augmente. La conséquence, c'est qu'ils gagnent aussi de l'argent. Et par contre, la population congolaise aujourd'hui continue à croupir.
Jeunes
sont des erreurs.
Voilà, merci beaucoup, John.
On
va prendre Léonard qui nous a rejoint également à Kinshasa. Léonard, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, mais Radio Capuche est avec vous.
Oui, quel est votre avis?
Bonjour. C'est quand même un peu compliqué parce qu'à chaque fois, c'est comme si on revient toujours sur les mêmes faits.
Mmh.
Écoutez, c'est bien que M. Romani, c'est un homme que je respecte beaucoup. Il a fait preuve de la bonne gestion quand il était à la province orientale. Pas une publicité pour lui. Mais en tant qu'opérateur économique, je ne comprends pas un peu la politique économique de notre pays. Dans le sens où il y a un principe qui dit que quand la pierre tourne, c'est toute l'économie qui marche. Mais malheureusement, chez nous, nous sommes en train de voir autre chose. On nous dit bien, il faut peut-être, la raison qui était avancée, c'est qu'il faut protéger les entreprises locales. Bien sûr. Mais comment voulez-vous protéger quelqu'un qui n'est pas à sa surproduction, mais qui est à la sous-production? C'est ça le problème. La demande interne ne couvre même pas... Et disons, l'offre interne ne couvre pas la demande. Et vous dites que vous allez protéger quelqu'un qui ne parvient pas à couvrir la demande. Mais il y a un peu de paradoxe dans ce sens-là. Parce que quand il y a les dépassements, l'écart entre l'offre et la demande, dans le sens de la nécessité, on peut recourir à l'importation. Et c'est ce qui se passe actuellement. Nos entreprises sont en baisse d'abord de production. On ne sait même pas comment maximiser les ressources nécessaires en ce moment où et les mobiliers sont en train de tourner avec une pratique du Congo pour tourner toute l'économie. Et on s'est dit, bon, on freine d'abord cette pierre. Mais écoutez, on pouvait peut-être se dire de supprimer l'importation des vivres comme les Thomson et les autres. Parce que là, on s'est dit, si on arrivait à subventionner nos producteurs de Kinkolais, nos producteurs de Mwanda, là, on aurait un peu de poisson.
Si
on ne fabriquait pas ça. Et les ciments où nos entreprises ne fabriquent pas neige. Ce sont des décisions où on prend sans autant d'abord concerter avec ceux qui sont directement impliqués au départ. Et vous voyez, une telle décision change toujours à chaque pas, ça change.
Merci.
Si les gens se lèvent à gauche, ça change. Et ici aussi, il faut que Kinshasa se soulève pour dire, bon, voilà, nous nous sommes contre ça. Ça va encore changer. Mais si ça ne change pas, c'est suite
voilà,
à la vie de Dieu ou soit quatre personnes.
Merci beaucoup, Léonard. Alors, on revient à vous, Jean-Marc Banissa. C'est vrai, pour pallier à cette crise, c'est vrai, il y a quand même une nouveauté que vous, vous venez de proposer. Expo, béton. C'est quoi ce projet? En quoi consiste-t-il?
JR, si vous permettez 30 ouais. secondes, je reviens pour donner un peu une petite conclusion. Les producteurs souhaiteraient être peut-être à 5$,
mmh.
mais pour cela, il faut s'asseoir avec le gouvernement, il faut baisser certains prix. On nous a laissé construire des usines ici quand le transport, la logistique est l'un des plus chers. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est à 2,8 fois plus cher par notre ligne ici jusqu'à Matadi. Pourquoi cela? Nous devons chercher à être moins chers. Et arriver, comme je dis, à un prix, pourquoi pas, de 5$ à la production. Mais ça, c'est un travail de fond qui doit être fait avec le gouvernement pour pouvoir offrir, comme notre frère a dit tout à l'heure de Matadi, offrir du ciment jusque dans nos villages. Alors, la seconde chose aussi qui est très importante, c'est de permettre à ce que les coûts aujourd'hui de transport puissent baisser. Le coût entre Matadi et Kinshasa aujourd'hui est à 2,5$ le sac de ciment. C'est extrêmement cher. Entre Kinshasa et Kinshasa, il est à 2,2$ le sac de ciment. Vous l'emmenez jusqu'à Kisangani ou jusqu'à Ilebo, il vous coûte encore 10$, plus les 2$ ici, plus la manutention, vous êtes à 8$. Pourquoi le carburant doit continuer à être si cher? Pourquoi notre péage doit être si cher? Voilà, autant de questions je pourrais vous étaler, et ce sont des discussions que j'ai avec les autorités en la matière, mais notre souhait dans la production, c'est d'arriver à un prix le plus bas possible et pouvoir exporter les produits faits en au Congo vers les autres pays que de toujours rester consommateurs.
Expo béton.
Alors, comme je dis, on est déjà à la phase pour nous de production qui va commencer bientôt. Il y aura beaucoup de ciment qui va être mis sur le marché et nous avons pensé que faut-il faire avec ce ciment. Donc voilà pourquoi nous lançons avec la NAPI et avec Ruby Design et Congo Partenariat Développement Conseil la première édition Expo Béton, le salon de la construction, les opportunités. La première demi-journée sera consacrée à l'habitat. Et nous devons réfléchir comment faciliter la construction des nouvelles cités. Pas seulement des petites réhabilitations, mais aujourd'hui, on a besoin des nouvelles petites cités qui puissent se construire, en tout cas, dans toute notre République. Et nous allons aussi parler de plan d'aménagement. Parce que sans plan d'aménagement, on ne sait pas ce qu'il faut faire exactement. Nous parlerons dans cette première édition du plan d'aménagement de Maluku, de la zone économique de Maluku, de celle de Kinshasa, puisque le gouvernement provincial a déjà travaillé là-dessus, sur ce qu'on appelle le SOSAC, le schéma directeur d'aménagement de la ville de Kinshasa, où seront les routes, les périphériques, les nouveaux quartiers, etc. Et celle du Congo central aussi, donc dans ce que nous sommes en train de faire un lobbying, ce que nous appelons le corridor ouest, Maluku à Banana. Comment nous allons faire un plan d'aménagement pour pouvoir développer cette partie et être influent dans la sous-région, puisque nous sommes entre plusieurs pays voisins. Et à partir de là, donc, on a besoin de réflexion, on a besoin d'asseoir, Kinshasa l'a fait, nous le félicitons, en tout cas, il y a un plan d'aménagement qui doit au fur et à mesure être connu. Ensuite, nous avons parlé aussi de la capacité de ces entreprises aujourd'hui de production de ciment, qu'ils se fassent connaître, que nous on sache comment est-ce qu'ils vont opérer, et nous allons aussi voir la capacité des entreprises de construction, parce qu'il faut ça. Et ensemble avec les ingénieurs, avec les architectes, ils doivent vraiment s'organiser, parce que même dans les quartiers, les communes, etc., il faut qu'il y ait des plans d'aménagement, il faut que lorsque vous construisez une maison, que demain elle puisse valoir deux fois plus, ou 30% ou 40%, que lorsque vous construisez une maison, qu'il ne faut pas viser seulement de pouvoir la rentabiliser dans 4 ans ou 5 ans. Les loyers, normalement, devraient vous payer votre investissement en 8 ans, 10 ans, 15 ans, comme c'est dans certains pays, pour pouvoir...
Et toute réflexion, c'est dans Expo
dans
Béton.
Expo Béton.
Temps à temps.
Et nous allons terminer la deuxième demi-journée avec le partenariat public-privé. Parce que pour les infrastructures aujourd'hui, nous le constatons, nous avons besoin, et cette loi est arrivée au niveau de l'Assemblée nationale, nous l'avons lue, nous espérons qu'en tout cas au mois de septembre, cette loi pourra être à disposition pour que les entités territoriales décentralisées, les provinces et le gouvernement central puissent ensemble avec les privés, lancer des travaux d'infrastructure. Et la troisième journée sera consacrée à la visite de Maluku, qui doit devenir un peu la future ville. Moi, je vois aussi toute la périphérie vers Mitenri, Kasangulu, etc. Ça, ce sont des choses que nous devons dessiner pour l'objectif 2050, pour que tout le monde sache ce que nous allons faire.
Et le Congo émergent.
Tout à fait. Je voulais dire aussi que nous profiterons aussi pour avoir les étudiants, une activité pédagogique, parce que nous allons mettre en place un award, donc un prix que dorénavant nous remettrons aux architectes, aux ingénieurs, aux constructeurs. Chaque année, nous reviendrons sur cette décision et pas sur cette session. Et pendant cette période aussi, nous allons avoir des workshops, donc des ateliers, dans une commune, dans une province, dans un territoire, pour réfléchir comment consommer. Comme me disent les amis au Congo central, il y a des capacités de production, il n'y a pas d'immeubles. Ce n'est pas normal, nous devons trouver une solution pour aménager ces espaces.
Jean Bamanissa, gouverneur honoraire, député honoraire, opérateur économique et aussi responsable du Congo Partenariat, Développement, Conseil, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait le déplacement de ce studio.
Merci, c'est moi qui vous remercie et bonjour à tous les auditeurs encore.
Voilà, merci à tous les auditeurs qui ont participé à ce débat, à cet échange citoyen. Merci aussi à Paul Badaniam qui a assuré la mise en onde de ce programme. Purée, la Mégie était à la réalisation de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebou Janguier. On se retrouve demain dans un autre numéro. À très bientôt.